Тарасу и Паскаль Сивой.
Midi 47! Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 14h en compagnie de Pascal CV. Val Kilmer nous a quittés cette nuit ou dans les dernières heures.
En peine.
Ben, en peine. Je veux dire, c'est Iceman dans Top Gun. Val Kilmer.
J'ai pensé à toi tout de suite.
C'est Val Kilmer, c'est Jim Morrison dans le film The Doors. Je sais pas si tu as vu le film. Mais,
j'ai pas vu le film.
C'était un bon acteur. Bon, il a fait quelques navets, là, mais pour moi, Val Kilmer, c'est Top Gun. Là,
les articles là, qui sont le plus impressionnants. Ah! OK, je te laisse. Vas-y.
Maverick et Iceman. Tu l'as-tu écouté le premier Top Gun?
Ben oui, je le préfère au deuxième. Ah! Un des bons films Kéten que jamais j'aurais cru apprécier.
OK.
Parce que là, ça, c'est très Yannick Marceau tatou, là. Moto.
Il y a pas de... Tom Cruise n'a pas de tatou.
Non, non, mais c'est très toi, là. Mais c'est ton personnage.
Je vais t'avouer quelque chose. La raison pour laquelle je fais de la moto aujourd'hui, c'est en raison de ce film-là. La raison pour laquelle, en 2007...
Quand il va chercher sa blonde, là.
En 2007, j'avais pris mon permis de pilotage. Ben, c'est parce que c'était une promesse que je m'étais faite quand j'étais jeune. Je me suis dit, un jour, je vais être pilote d'avion. Puis je voulais conduire, ben, piloter en fait les mêmes avions que Tom Cruise. Mais à un moment donné...
Tu sais que c'était pas lui pour vrai, hein?
Avec Tom Cruise, on sait pas. on sait pas. Mais c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, bon ben tu sais, on va rester au Cessna 152 plutôt que les fameux avions que Tom Cruise utilisait dans son film. Mais oui, ça a eu quelque chose de positif chez moi, ce film-là.
Positif ou négatif, là, ça dépend. Soit renforcer ton ego et ton image.
Mon permis de moto, puis mon permis de pilote.
Ouais. 65 ans, c'est quand même très, très jeune. Hein? Succomber à une pneumonie, c'est quand même triste.
C'était remis de son cancer à la gorge. Il était magané un peu.
Ouais.
Il était vraiment magané.
Il y a eu toutes que des femmes dans sa vie aussi. Cindy Crawford, Cher. En tout cas,
c'était pas le dernier à avoir pigé dans le sac à face. Là.
Ouais, je comprends ton point.
Puis il y avait de l'argent.
Il y avait un statut.
C'est ça. Il y avait de l'air d'un bon gars.
Mais ça veut pas dire que c'est pour ça que les femmes l'avaient choisi. Là, j'aime pas ça. C'est médiocre comme commentaire.
Fait que ça, c'est une mauvaise nouvelle pour ce qui est de Val Kilmer. La bonne, c'est que le Canadien, victoire in extremis hier du Canadien de Montréal. 3-2 en prolongation face aux Panthers. C'est capitaine Nick Suzuki qui a explosé le Centre Bell avec 9 petites secondes à faire en troisième avant de lui-même marquer le but gagnant en prolongation. Un genre de wraparound. Prochain match, c'est demain face aux Bruins à Montréal. Donc, le Canadien. Ça va bien. Parlant d'un autre qui va bien, Jérémy Guillot, analyste politique. Salut!
Salut à vous deux. Je pensais jamais parler du Canadien de Top Gun, de Val Kilmer et de Mark Carney dans à peu près la même phrase.
On est de même, nous autres. On va à gauche, on va à droite.
Toi, conduis-tu une moto et pilotes-tu des avions depuis Top Gun 1?
Ah, malheureusement, non, mais je trouve que c'est tous des bons films. Par exemple, j'ai ce côté-là en moi, parce que moi, là, les Top Gun, les Marvel, Let's Go, on les écoute.
Oui,
il y a
ben
juste
oui.
La veste de cuir, Jérémy Guillaume.
j'ai jamais acheté sa veste de cuir, par exemple, mais je l'ai vue chez Simons. Je pense qu'elle est autour de 300$, sa veste.
T'as acheté d'autres choses.
C'est quoi j'ai acheté?
Je te laisse commencer la chronique. Allez sur Twitch.
J'ai acheté d'autres choses.
Excuse-moi, là.
Hein?
J'ai pas pensé à toi puis la mort de cet acteur-là pour rien.
Mais ben voyons donc.
Dans une obsession.
Parce qu'elle est partie, Jérémy. Elle nous a laissé tout seul. Fait qu'on va...
Elle nous abandonne. On va donner la veste de cuir à Mark Carney.
Exact, exact. Les sondages qui sont sortis dans l'actualité là, concernant les élections fédérales, y a-tu quelque chose qui t'a surpris là-dedans? Parce que les libéraux trônent encore au sommet avec 44 % contre 38 % pour ce qui est du Parti conservateur du Canada.
Oui, on n'est pas dans la game du Canadien hier, comme tu disais, là, les libéraux semblent mener la partie 4-5-0 en ce moment.
Ouais.
Et ça continue de l'avance des libéraux continue de se solidifier. Là. Quand on regarde principalement au Québec, 43% pour les libéraux. Et là, au coude à coude, pour la deuxième place, 23% pour les conservateurs et le Bloc québécois. Moi, c'est ça qui me surprend ici. Le Bloc québécois à 23%, ça me fait penser aux élections fédérales de 2011, quand Jack Layton avait remporté une très grande majorité de circonscriptions au Québec, c'est ce qu'on avait appelé la vague orange à l'époque. Il avait remporté 59 circonscriptions. Il avait obtenu 43% des intentions de vote et Gilles Duceppe du Bloc québécois avait obtenu 23% des intentions de vote. Donc, quand on voit le Bloc à cet endroit-là dans les sondages, et là, je fais pas une prédiction, je dis pas que c'est ce qui va se passer, puis je dis pas qu'on va avoir une vague rouge le 28 avril prochain, mais en ce moment, si le vote avait lieu aujourd'hui, si Léger avait raison, on aurait une vague rouge.
OK. Est-ce que les négociations dans les prochaines heures qu'il va y avoir avec Donald Trump vont faire foi de tout? Mettons qu'on fait un sondage dans une semaine. Là. Ça se peut-tu que le sondage change avec ce que Trump va mettre en place puis ce que Carney va mettre en place avec son équipe?
J'ai l'impression que c'est gagnant-gagnant pour les libéraux et que c'est perdant-perdant pour Pierre Poilievre. Je m'explique. Gagnant-gagnant pour les libéraux parce que si jamais Trump décide d'attaquer très fortement le Canada, ben en ce moment, dans les sondages, qu'on voit, c'est que les Canadiens préfèrent Mark Carney pour se tenir debout devant Donald Trump. Si jamais Donald Trump décidait d'épargner le Canada, ben là, on dirait probablement que c'est en raison de l'appel que Mark Carney a eu avec lui la semaine dernière. Alors que c'est l'inverse pour les conservateurs. C'est, si on voit ce genre de scénario-là, on a de la misère à s'insérer dans la conversation. Quoique Pierre Poilievre, ce matin, a fait un beau pivot. Il a fait un discours à Toronto en compagnie de Brian Mulroney, de la fille de Brian Mulroney, oui. Caroline Mulroney, pour faire un clin d'œil à l'ancien premier ministre conservateur qui avait négocié l'entente de libre-échange à l'époque en 88, qui était un pilier dans le mouvement conservateur. Donc, c'est un bon coup de Pierre Poilievre, mais est-ce que ça va être assez pour faire renverser la tendance? Ouais. Je suis pas certain.
Faut pas que ce soit juste une image non plus, mais tu sais, Yannick et moi, on jasait cette semaine à se demander, bon, est-ce que c'est plutôt Trump qui a choisi Carney versus Carney qui a les rênes pour gérer la crise économique actuelle avec Donald Trump? Souvent, c'est quand même réfléchi de la part de Donald Trump. Est-ce qu'il préférait affronter un Carney qu'un Poilievre, tu penses, pour la suite des choses?
Ben là, je veux pas être pas d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que c'est tant réfléchi que ça, moi, ce que Donald Trump il fait.
OK, mais non, mais on jasait, on analysait, là.
Il veut pas. Ben, tu sais, moi, je suis pas certain. Un jour, il peut dire qu'il aime mieux Carney, et l'autre jour, il va dire qu'il aime mieux Pierre Poilievre.
Et le lendemain, il va dire, j'ai jamais dit que j'en aimais un des deux.
Je les haïs. C'est 51e méthode.
C'est ça. Tu sais, un jour, c'est gouverneur, l'autre jour, c'est le premier ministre, l'autre jour, c'est un État, l'autre jour, c'est un pays. Tu sais, c'est une partie très dangereuse que de faire nos décisions, notre politique ici au Canada, en fonction de ce qu'on pense que peut-être pourrait vouloir Donald Trump.
Mais est-ce que, mettons,
ce qui est meilleur pour le Canada, ce sera ça.
Le fait de voter selon un peu ce qu'aurait choisi comme conversation Donald Trump pour la suite des choses, mettons pour Carney en ce moment, tu sais pas pour qui voter, puis tu dis, mais au moins Carney a le canal de communication avec Donald Trump, est-ce une bonne idée ou justement c'est tellement fluide que ça se vaut pas?
Ben, en ce moment, ce que les gens semblent dire, c'est que Carney est la meilleure personne pour négocier avec Donald Trump. Quand on regarde les intentions de vote, puis, tu sais, Mark Carney fait plein d'erreurs en ce moment. Il a fait plein de bourdes la première semaine. Il en a fait encore cette semaine. Pensez juste à ce nouvel organisme de logement que les libéraux avaient essayé de baptiser Bâtir Maison Canada.
Bâtir Maison Canada.
Il y en a qui ont fait des blagues avec la E.T. l'extraterrestre, là, E.T. téléphone maison. Ben, malgré toutes ces gaffes-là de la part de Mark Carney, ce que Léger nous dit aussi dans son sondage, c'est que les gens trouvent que Mark Carney fait la meilleure campagne électorale. Il y a 29% des Québécois qui jugent que Mark Carney est le leader qui mène la meilleure campagne contre 21% pour Pierre Poilievre. Puis en ce moment, Mark Carney fait pas vraiment campagne. Un, il se met les pieds dans les plats quand il fait campagne.
Ouais.
Puis deux, en ce moment, sa campagne est sur pause parce qu'il est à Ottawa. Bon, je suis certain qu'il est pas en train de pleurer puis de verser une petite larme parce qu'il a été obligé de changer ses habits de chef de parti pour premier ministre. C'est des habits dans lesquels il semble être plus confortable. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens semblent favoriser M. Carney.
Est-ce que les débats pourraient peut-être changer les choses?
Il reste encore beaucoup de temps de glace à jouer. Hein. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. M. Poilievre, il n'est pas trop tard. Il est loin dans les prédictions de siège, mais il n'est pas nécessairement très, très loin dans les intentions de vote globales. Mais pour les conservateurs, ils ont besoin d'en faire plus. Il va avoir besoin de gagner les deux débats, en français puis en anglais. Ce que je pense que c'est déjà les attentes des gens, mais il va falloir qu'ils sortent la balle du stade s'ils veulent renverser la tendance. Parce qu'une tendance en politique, surtout une tendance vers la baisse, c'est très difficile à arrêter parce que là, tes gens commencent à être démobilisés, tes bénévoles sont démobilisés, les stratèges commencent à parler dans les coulisses comme on a vu cette semaine pour les conservateurs. Donc tout ça, là, ça crée des, des cercles vicieux qui sont difficiles à arrêter quand ça va mal. À l'inverse, quand ça va bien, un momentum qui va bien, comme on voit chez les libéraux, mais ça aussi, ça vient avec une certaine force. Donc, savoir, est-ce que les débats vont changer quelque chose? Est-ce que Mark Carney va continuer de faire des gaffes qui, à un certain moment, vont dire, bon, c'est j'en ai assez vu, là, je suis tanné. La réponse à ça va probablement être donnée par Donald Trump. Okay. Si Donald Trump est omniprésent dans la campagne, à ce moment-là, je pense que peu importe ce qui va se passer dans les débats, Mark Carney risque d'être avantagé.
Avec le sondage léger, il y a des trucs qui sont intéressants. On peut savoir qu'est-ce que les gens peuvent penser concernant Mark Carney qui refuse de rendre public ses intérêts financiers avant l'élection. Je trouve ça très particulier. 67 % des gens qui disent qu'il devrait le faire contre 17 % des gens qui disent non. 16 % qui ont dit je ne sais pas ou ben, je refuse de répondre. Mais quand même, c'est presque 70 % des Canadiens qui veulent que Mark Carney parle de ses intérêts financiers parce que c'est le premier ministre du Canada, puis on veut savoir où est son argent, puis qu'est-ce qu'il fait avec son argent, puis c'est quoi les entreprises qui lui appartiennent, puis pourrais-tu bénéficier du fait qu'il est premier ministre du Canada dans ses entreprises privées? À mes yeux, à moi, je fais partie du 70 % des Canadiens. Est-ce que, selon ton point de vue, il devrait le faire, donc rendre public ses intérêts financiers avant l'élection?
100 % il devrait le faire. Il aurait dû le faire bien avant ça. Et c'est exactement ça quand on dit que M. Carney doit faire la transition entre l'homme d'affaires puis l'homme politique. Être autour d'une table de conseil d'administration, c'est vraiment différent de faire une campagne politique. Et quand tu fais une campagne politique, tu dois t'arranger pour éviter de donner l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. Il n'y a personne qui s'attend à ce que Mark Carney soit pas millionnaire, là. On s'attend tout à ce qu'il y ait pas mal d'argent, puis probablement un peu plus que ce qu'on pense encore. Le problème avec ça, c'est que M. Carney vient du milieu privé. Quand on dit qu'il n'a jamais été élu dans aucune fonction, c'est qu'il n'est pas habitué de rendre des comptes à la planète au complet. Puis en même temps, si je me mets dans les souliers là, des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, probablement que ça vous tente pas d'ouvrir votre portefeuille puis de dire à tous vos amis, à tout le monde, à tout votre entourage, combien vous gagnez, combien vous avez de placés, etc.
Mais si tu choisis la politique, non?
Quand tu auditionnes pour être premier ministre du Canada, ça vient avec cette responsabilité-là. Ça vient avec ce devoir-là. Puis pour Mark Carney, qui n'a pas l'habitude de faire ça, d'être dans cet exercice-là, c'est sûr que le réflexe naturel, c'est de dire, ben non, j'ai pas besoin de donner ça, je donne pas ça, ça concerne personne. Mais quand tu vas être premier ministre du Canada, malheureusement, ça concerne tout le monde.
Ça donne-tu un petit angle sur la personnalité du politicien ou c'est vraiment juste une chose, mais je fais la comparaison avec François Legault qui voulait tant faire en sorte que le pouvoir ait un petit peu plus à ses ministres, qu'il y en ait beaucoup entre les mains de l'électorat aussi, mais qui finalement a un rapatriement envers lui-même par rapport aux prises de décision, puis où est-ce que le parti s'en va. C'est beaucoup plus centralisé que ce qu'il souhaitait faire. Est-ce que cette façon de faire les choses-là, de ne pas rendre de compte, d'aller par lui-même, de prendre ses décisions, même si ça va contre-courant, de ce que la politique habituellement doit être, nous parle de Mark Carney?
Ça va avec le caractère de l'homme d'affaires qui arrive en politique. Ça n'a pas toujours été des transitions faciles. M. Legault, ça a été un homme d'affaires, mais il a aussi fait une longue carrière de politicien avant de devenir premier ministre. De sauter du milieu des affaires au milieu politique, on en a vu des transitions comme celle-là et ça n'a pas été toujours fructueux, là. Pensez à Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances du Canada, qui avait fait cette transition-là et qui avait eu de la misère à s'adapter au milieu politique. Éventuellement, il avait même été appelé à démissionner par la suite. Donc oui, c'est sûr que ça parle un peu de son caractère, ça parle beaucoup de son passé d'homme du milieu des affaires. Et par rapport au caractère de Mark Carney, c'est pas la personne la plus sympathique, la plus agréable à rencontrer.
Ah non, il est impatient. Il est impatient. Hey. Il a de l'air à faire du boudin pas pire.
Mais tu sais, quand on veut un politicien qui est rigoureux, qui est sérieux, qui incarne le leadership qu'on a besoin, par exemple, à la présidence de la Banque du Canada ou de la Banque d'Angleterre, ben attendez-vous pas à avoir un Justin Trudeau non plus qui est agréable, qui est le fun, qui prend des photos avec le monde, qui fait des bains de foule. À un moment donné, quand c'est ce qu'on recherche, c'est du sérieux, de la rigueur, on va avoir le caractère puis la personnalité qui vient avec ces attributs-là. À l'inverse, est aussi vrai. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais M. Carney n'est pas dans la catégorie des politiciens. Vous savez, moi, quand je travaillais pour des ministres, je disais, ah, mais si seulement tu connaissais bien ma patronne, ben là, pour M. Carney, je suis pas sûr qu'on gagne à connaître la vraie personne en arrière de M. Carney. On gagne plutôt à entretenir l'aura autour de lui.
Il n'y a pas gros marketing à faire autour de Mark Carney, de ce que je comprends. Autre question qu'on a posée dans le sondage léger aux Canadiens, c'est êtes-vous d'accord ou en désaccord avec Mark Carney de ne pas participer au débat du face-à-face en français à TVA? 52% des gens ont dit en désaccord avec sa décision de ne pas participer au face-à-face à TVA. Puis l'autre portion, c'est 32% des gens qui disent qu'ils sont en accord. Honnêtement, je pensais que ça allait faire plus mal que ça, là, le fait de ne pas participer au débat face à face, parce que du jour au lendemain, je ne veux pas prêter des intentions, mais en même temps, on va dire ce qu'on constate. Là, du jour au lendemain, l'attitude des chroniqueurs a beaucoup changé envers Mark Carney à partir du moment où il a refusé de participer à ce débat-là. Enfin, je me suis dit, il va y avoir un impact dans la population, puis visiblement, selon le sondage, il n'y en a pas eu. Et je t'amène sur la dernière question qu'on a posée. Selon vous, le chef libéral Mark Carney maîtrise-t-il bien ou mal le français? N'importe qui s'est moindrement informé là, et qui a prêté attention se rend compte que le gars ne maîtrise vraiment pas bien le français, comprend pas encore les nuances. Ça n'a pas rapport avec sa compétence, soit dit en passant. Là. C'est juste que la question,
juste sa compétence sur le français.
Est-ce qu'il maîtrise le français ou pas? Il y a 50% des gens qui ont dit qu'il fait très mal, puis 36% des gens qui disent oh « oui, il s'exprime super bien en français ». C'est weird, ça.
C'est un peu ironique, là. Ben oui. Suivent-tu vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment se fier sur leur vote dans tout le sondage? Rendu là.
Ben, écoute, je pense que M. Carney parle bien français pour un anglophone qui fait des efforts à apprendre français, mais il parle pas bien français pour quelqu'un qui veut gouverner le pays et débattre en français. Puis d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qu'on voit. Et quand on dit que M. Carney parle mal français, je pense que ça fait aussi un peu partie de la raison de pourquoi il a refusé le débat à TVA. Et moi, sur le débat à TVA, ce qui me dérange dans la façon dont ça a été présenté, c'est notamment le fait que M. Carney a dit qu'il n'y allait pas parce que la chef des Verts, Elisabeth May, n'était pas invitée.
Ouais, ben là, là.
Bon. C'est un peu niaiseux.
Il y a pas un homme au Canada qui pense ça.
Non, Yannick me rappelle à longueur de journée, là. C'est pas Carney qui va commencer à me convaincre de choses du genre, là.
Non, mais tu sais, la raison, si j'avais été un gars comme toi, là, près de Mark Carney, ça aurait dû être on veut pas créer de précédent à la grandeur du Canada. Donc, à chaque fois qu'il y a un débat, donner 75 000 $ pour pouvoir participer au débat, c'est parce que on n'en finirait plus. Il aurait dû y aller avec ça. Ça aurait été un peu plus pardonnable.
100%. La transparence est un outil fortement sous-estimé des fois par nos politiciens.
Pourquoi?
Si Mark Carney nous avait dit, je ne sais pas.
Parce que
si
c'est
Mark
flagrant.
Mark Carney nous avait dit, là, tu sais, s'il nous avait dit, je ne maîtrise pas assez la langue française pour un débat comme le style de TVA, malheureusement, je vais me concentrer sur la campagne. Il va y avoir deux autres débats, puis je vais y être. Déjà, là, je suis sûr que les gens auraient de facto plus accepté. S'il avait dit, c'est 3 jours de campagne pour être à TVA, donc le 7, le 8, le 9 avril, et 3 jours de campagne pour être à Radio-Canada, donc le 15, le 16, le 17 avril, dans une campagne éclair, on n'a pas le temps, malheureusement, je vais faire seulement les deux débats du consortium. Parfait, je l'accepte. S'il avait dit, j'ai un malaise avec le fait que TVA demande une cotisation de 75 000 $ donc oui, je peux le faire, mais on ne payera pas parce qu'au Parti libéral du Canada, on a un malaise avec ça. Ces trois réponses-là là, auraient été 100 fois mieux que « non, j'y vais pas parce que Elisabeth May n'est pas là ». À un moment donné, la transparence chez nos politiciens, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas encore compris, là, mais c'est un outil qui est sous-estimé et qui gagne à être davantage utilisé.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis les gens veulent avoir des gens humains. Hein,
t'sais, quand, on est d'accord
au municipal, au provincial. Oui, mais tantôt, tu n'étais pas d'accord avec Pascal. Ça m'a comme surpris. Je me suis dit, coudonc. Tu sais, moi, je pensais que ça allait bien, vous deux.
Ben oui, mais justement, ça va bien parce qu'on est capable de discuter.
Mais tant au municipal, au provincial qu'au fédéral, ce qu'on veut, c'est des êtres humains qui sont imparfaits comme nous autres.
Mais je comprends pas le pari qui est fait parce que ça, il me semble que c'est clair dans notre tête. C'est clair dans la tête à Jérémy. Tu commentes au 88-971-1021 en tant que auditeur, j'ai l'impression, Yannick, si on pose la question, c'est beaucoup ce qu'on va avoir. On veut des gens authentiques, transparents et vrais, mais la joute politique est tout autre depuis plusieurs années, puis elle se renforcit dans ce manque de transparence-là. Rappelle-toi, une des seules coches que j'ai pétées en ondes avec toi, c'est quand on avait eu une personne de relations publiques qui était venue nous défendre l'indéfendable, puis je disais, je comprends pas, vous entendez pas, vous voyez pas que le public vous croit pas en ce moment. Vous sentez pas en ce moment qu'il y a tellement de gens qui comprennent votre stratégie de défendre à tout prix, puis de pas vous excuser, puis dire que c'est la seule chose à faire. C'est flagrant, mais on choisit quand même la voie de se défendre, d'expliquer que c'était la seule chose à faire, ou encore de cacher une information jusqu'à temps qu'elle sorte du côté médiatique. Puis là, c'est vrai, mais à ce moment-là, c'était la meilleure décision.
C'est des stratégies, mais je me souviens, Jérémy Guillaume, d'une stratégie que j'avais trouvée hallucinante. Là. Tout le monde recule avec son véhicule. Les chauffeurs d'autobus doivent reculer aussi avec les véhicules. Puis à un moment donné, j'avais vu la caravane de Jean Charest arriver devant la station où je travaillais à l'époque. Puis la façon dont la rue était faite, puis le stationnement, ben il devait rentrer dans le stationnement au grand complet avec son autobus, puis par la suite, retirer l'autobus en reculant. Puis les stratèges politiques ont dit non, l'autobus de Jean Charest ne reculera jamais. Puis on avait été obligé de laisser l'autobus directement sur la Grande Allée avec des cônes pour être sûr et certain que la police ne vienne pas donner un ticket à Jean Charest parce que lui, il ne voulait pas reculer avec son autobus. Tu sais, c'est comme si le citoyen qui passe dans la rue va voir un autobus reculer de Jean Charest puis il va dire « Hey, ça, ça a un lien avec la politique, ça. On sait bien un
non,
politicien... »
Non, mais c'est garanti qu'il y a quelqu'un qui l'aurait filmé puis qui l'aurait mis sur Twitter ou sur Facebook.
Parce qu'il y a plus...
On aurait eu une journée de l'autobus de Jean Charest recule. C'est tellement classique.
Non, mais les gens sont pas...
Ils pensent à ça, mais ils pensent pas être honnête.
Ouais, mais les gens sont pas caves, Jérémy. Ils sont capables de voir qu'à un moment donné, faut que tu recules.
Ouais, mais je te dis que des fois, ça, là, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce que tous les stratèges qui ont été dans des autobus le savent, c'est une règle d'or. Ton autobus, ça recule pas.
Ouais, en même temps, c'est logique qu'il recule une fois de temps en temps, mais je comprends ce que tu veux dire. Jérémy Guillaume, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis là, on n'a pas trouvé de chicane aujourd'hui à faire. Je comprends pas.
Mais là...
Ça arrive des fois.
On se reprendra la semaine prochaine.
T'es bien chicané, c'est quoi l'histoire?
On sera meilleur la semaine prochaine.
Voyons.
Salut, Jérémy.
Bonne journée à vous deux.
Bye bye.
Radio toxique, Yannick. Ben tu veux tout aller là?
Exact. Ah. Je te regarde même. Non, mais le sondage m'a surpris, surtout sur le français de Mark Carney. T'sais. Il s'exprime pas super bien en français. Il fait l'effort, puis ça, faut le saluer. Mais c'est plus qu'on voit qu'il ne comprend pas toutes les nuances. Fait que des fois, il va répondre quelque chose qui n'a aucun lien avec la question qui a été posée par le journaliste parce qu'il n'a pas compris la nuance du journaliste.
Sauf qu'il n'y a pas quelqu'un... Tu sais, mettons, là, la famille royale, là, à savoir, dans un événement, là, il y a des gens qui sont engagés pour étudier la panoplie de personnes qu'ils vont rencontrer cette soirée-là et dire à l'oreille, voici... Le, je sais pas moi, le gouverneur de la petite patrie, puis là, il arrive, c'est le gouverneur de la petite patrie, puis il se recule. Bonjour gouverneur, tu sais, il y a pas quelqu'un qui pourrait traduire dans un petit oreillette.
Mais comme à tout le monde en parle, scandale. Quand il y a des artistes internationaux qui passent, à tout le monde en parle, l'artiste international va répondre en anglais, mais la question de Guillaume Lepage va lui être posée en français, mais dans son oreille, il y a un traducteur qui prend la question en français puis qui la traduit en anglais dans l'oreille de l'artiste, ça pourrait être la même affaire pour Mark Carney.
C'est parce que là, on dirait, ben là, il se fait susurrer à l'oreille les réponses, donc c'est pas vraiment lui qui est contrôlé. T'sais,
non, mais c'est important qu'il comprenne bien la question,
ben,
sinon il va mal paraître.
Mais je pense que le pire, c'est justement de ne pas comprendre puis répondre des sottises.
Entre ne pas comprendre la question puis voir ce que ça donne dans les bulletins de nouvelles ou de voir un autobus qui recule.
Moi, si j'aime... le choix est à faire.
Montre-moi l'autobus qui recule, puis l'autre, faut qu'il comprenne bien la question. OK,
13h. Nous, on avance en passant, fait que faut se rendre au prochain invité. Là.
13h11, oui, il doit nous attendre. Là. J'avais-tu des affaires pour vous autres? J'ai quelque chose ici, voilà. Pourquoi faut que je parle de dodgeball?
Ah, c'est plate!
C'est toi qui organisais ça?
Non!
T'as bien ça.
C'est juste parce que, écoute, Yannick...
Est-ce que vous connaissez le dodgeball? Je vous laisse parler de votre passion, Mme CV.
Oui. Écoutez, ça a changé ma vie. Là,
écoutez.
Puis ça se peut, vous ne me croyez pas, mais demandez à Mathieu Marcotte ou encore Nathan qui est venu l'essayer. Le dodgeball, c'est parti d'une farce dans ma vie pour devenir officiellement quelque chose qui est à ne jamais déplacer le mercredi. Là. Ligue de dodgeball Québec. Les inscriptions, c'est maintenant. Si vous voulez rocker la ville avec une gang de soit farfelus ou de gens vraiment sportifs, parce que ça dépend, il y a des soirs qu'on se fait complètement rincer, d'autres soirs qu'on est bien fiers d'en gagner au moins une, bien c'est le moment pour vous inscrire. Fait que c'est ça le dodgeball. C'est un genre de ballon prisonnier à 6 ballons en mousse sur le terrain, puis t'as pas le droit de te faire toucher par aucun ballon et ta tête est épargnée. Mais si tu veux triper en tant que femme, homme, non-genré, peu importe, c'est une communauté qui est dynamique, accueillante, hyper inclusive, vous allez rire votre vie. Essayez de venir, les 25-30 ans, là, c'est votre moment. La blonde ou le chum sera avec les enfants, puis vous, vous allez jouer au dodgeball une fois par semaine. Inscrivez-vous avant le 17 avril. Moi, je veux vous voir puis je veux jouer contre vous. Puis je salue des auditeurs contre qui je joue. Hein.
Donc, dodgeballquebec.org. Dodgeballquebec.org. Puis en fait, c'est du ballon chasseur, comme on
avec
faisait
six ballons, ouais.
À l'école primaire.
Les règles sont full faciles. Là. Je vais vous les expliquer personnellement s'il faut.
Dodgeballquebec.org.
Tu mets-tu ces lunettes-là quand tu joues au dodgeball?
Là? Avant le 17 avril, selon les niveaux.
C'est ça tes lunettes de Tom Cruise. Tu dis t'as pas la veste de cuir, mais j'ai couru à ton bureau. C'est ouais. Ça tes lunettes soleil.
Non, ça c'est des lunettes de Wish. J'ai mes Ray-Bans sont à la maison.
Ça c'est des fausses.
C'est des fausses, ouais. J'ai payé ça 20$.
Ben oui, mais c'est quand même le style de Tom Cruise. Tes Ray-Bans sont pareils.
Non, pas du tout.
Ben, ils sont... Hey, tu t'obstines pour un 2$.
Dodgeballquebec.org.
Fait que c'est
rendu chez nous sur les zones de boulevard. Fait que Pascal n'a pas fini de nous achaler avec ça. Fait qu'on va être obligé d'y aller.
Venez jouer.
Ouais, 13h13, on revient. Boulevard 102.1.